VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 23 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia pour le journal et Jacques Aristide pour la partie magazine. D'abord les titres, durcissement des mesures de protection contre le Covid-19 en Afrique. Les États-Unis enregistrent pour la première fois plus de 100 décès liés au coronavirus en 24 heures. Plus de 14 000 personnes ont été tuées par le Covid-19 dans le monde, dont plus de 7 500 en Europe. En Guinée, les violences liées au référendum constitutionnel font un mort et des blessés à Conakry. Afghanistan, première discussion entre le gouvernement de Kaboul et les talibans sur les échanges de prisonniers. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Compatine. Dans plusieurs pays africains, les autorités ont durci les mesures de protection face à la pandémie de coronavirus. Eric Manirakiza.
À Kinshasa, la grande majorité des lieux de culte sont restés fermés ce dimanche. Le Nigeria a imposé notamment la fermeture de 2 aéroports internationaux, des liaisons ferroviaires et des restrictions dans plusieurs états du pays. Les fonctionnaires du Botswana ont reçu ordre de ne pas quitter le pays. Le président Mokgweetsi Masisi a été placé en quarantaine après s'être rendu en Namibie, pays qui a enregistré 3 cas du nouveau coronavirus. Au Zimbabwe, le président Mnangagwa a interdit à son gouvernement de voyager à l'étranger, une consigne qui, avait-il précisé, cette semaine s'appliquait aussi à lui-même. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont également interdits. En Angola, le président Lorenzo a décrété la fermeture des frontières terrestres, l'interdiction des vols commerciaux et les rassemblements de plus de 50 personnes. Le Maroc a déployé ce dimanche des unités de blindés pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire que des groupes avaient défié dans la nuit en allant prier ou protester dans la rue. Les sanctions des contrevenants ont été renforcées jusqu'à 3 mois de prison et ou des amendes allant jusqu'à environ 124 euros. L'Algérie a décidé de réduire ses dépenses publiques et de revoir sa politique économique face à l'effondrement des cours du pétrole, principale ressource du pays, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.
Les cas de contamination par le coronavirus ont flambé dimanche en Europe, en particulier en Italie. Plus de 14 000 personnes ont perdu la vie dans le monde, dont plus de 7 500 en Europe. Et plus de 324 000 personnes ont été contaminées, dont la moitié sur le vieux continent. Près d'un milliard de personnes à travers la planète doivent rester chez elles pour tenter d'entraver le virus. Le point avec Jean-Roger Bion.
Pays le plus touché avec 5 476 morts, l'Italie connaît un scénario effroyable que redoutent tous les autres, avec dans certaines régions une contagion qui paraît hors de contrôle et une saturation des capacités de soins. Alors que la pandémie a fait 651 morts au cours des dernières 24 heures, le premier ministre Giuseppe Conte a annoncé l'arrêt de toute activité de production sur le territoire qui ne serait strictement nécessaire. Second pays le plus touché en Europe, l'Espagne a enregistré près de 400 nouveaux morts en 24 heures, portant le taux total à 1720. Un énorme hôpital de campagne a été mis en service à Madrid, tandis que le gouvernement a demandé le prolongement du confinement jusqu'au 11 avril. Les chiffres s'accélèrent au Royaume-Uni. Nous ne sommes qu'à quelques semaines de l'Italie à mise en garde dimanche le Premier ministre Boris Johnson. Face à la propagation du virus, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles, des pubs, cinémas et salles de sport, mais pas de confinement généralisé. L'Allemagne a interdit dimanche les rassemblements de plus de 2 personnes dans l'espace public. La chancelière Angela Merkel, qui a été en contact avec un médecin testé positif au virus, s'est placé en quarantaine. La Grèce a décidé dimanche de passer à partir de ce lundi au confinement général de sa population. La Chine n'a enregistré lundi aucun nouveau cas de contamination d'origine locale au coronavirus, mais les autorités sanitaires ont fait état de 39 cas importés supplémentaires.
Ici aux États-Unis, la pandémie a continué de progresser avec pour la première fois plus de 100 décès en 24 heures, portant le bilan total à plus de 410 morts dimanche soir et au moins 33 000 personnes infectées.
En outre, hôpitaux de campagne montés en urgence par l'armée, d'une capacité totale de 4000 lits dans les États les plus touchés, Californie, New York et Washington. Et plus d'un tiers des Américains sont sujets à un degré différent de confinement. Au Congrès, un premier sénateur, Rand Paul du Kentucky, a annoncé dimanche avoir été testé positif alors qu'il venait de côtoyer plusieurs de ses collègues. Deux membres de la Chambre des représentants avaient déjà annoncé la semaine dernière être atteints également. Et puis, malgré d'intenses négociations, la Maison-Blanche, les Républicains et les Démocrates du Congrès n'ont pas pu s'entendre dimanche pour parvenir à un premier vote très attendu sur un gigantesque plan de soutien à l'économie américaine frappée par la pandémie de coronavirus. Mais les négociations se poursuivaient déjà en coulisses pour parvenir à un compromis réclamé par le président républicain Donald Trump. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré pour la première fois devant le Parlement que si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes, la décision d'un report des Jeux olympiques de Tokyo pourrait devenir inévitable. Pour sa part, le Canada a d'ores et déjà annoncé qu'il n'enverra pas d'athlètes à ces Jeux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, les violences liées au référendum constitutionnel et aux législatives boycottées par l'opposition ont fait un mort et des blessés à Conakry. L'opposition accuse le président Alpha Condé de chercher par le biais de ce double scrutin un troisième mandat. Michel Joseph.
Afif Diouba, un jeune homme de 28 ans, a été tué par balle lors de heurts entre manifestants et forces de l'ordre à Hamdalaye, banlieue de Conakry, a affirmé son frère Ami Diouba. 8 jeunes ont également été blessés par balle à Dar es Salaam et Bambeto, des banlieues de Conakry favorables à l'opposition. Des troubles sont aussi survenus à Mamou au centre, à Boké à l'ouest et à Ndérékoré au sud-est, selon des témoins. Du matériel électoral a été détruit dans des localités comme Kobela au sud, Dingiraï au nord-est et Kona au nord-est. Le référendum et les législatives avaient été reportés à la dernière minute il y a 3 semaines dans un climat de vive tension. L'opposition avait promis de boycotter le vote et d'en empêcher la tenue. La persistance des troubles n'a pas dissuadé le gouvernement d'organiser les scrutins, pas même l'apparition récente du coronavirus. La mort de Afif Diouba porte à au moins 32 le nombre de manifestants tués depuis le début à la mi-octobre de la vague de protestations contre le président Condé, qui a également coûté la vie à un gendarme. Des dizaines d'opposants ont été arrêtés et jugés. Monsieur Condé, 82 ans, a été élu en 2010 et réélu en 2015. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats, la nouvelle que propose Monsieur Condé également. Mais, accuse ses opposants, elle lui permettrait de remettre son compteur à 0 afin de se succéder à lui-même fin 2020.
Environ 400 000 électeurs des deux régions anglophones du Cameroun en proie à un conflit meurtrier étaient attendus ce dimanche dans les bureaux de vote des circonscriptions où les résultats des législatives du 9 février avaient été annulés. Le 25 février, le Conseil constitutionnel avait annulé les résultats des législatives dans 10 circonscriptions de la région du Nord-Ouest et dans une circonscription du Sud-Ouest, décision prise à la demande du Social Democratic Front, le principal parti d'opposition. Il estimait que les bureaux de vote étaient trop éloignés des lieux de résidence des habitants. Dans ces deux régions, une grande partie du territoire est inaccessible du fait des violences. La situation n'a pas changé, estime le porte-parole du parti d'opposition et candidat dans une des circonscriptions, Denis Kemlemo. Personne n'a pu faire campagne correctement, beaucoup d'électeurs demeurent cachés dans la brousse, ajoute-t-il. Le gouvernement afghan et les talibans se sont entretenus dimanche pour la première fois sur les modalités de possibles échanges de prisonniers par vidéoconférence, a annoncé l'émissaire américain Zalmay Khalildad. L'échange de prisonniers prévu dans l'accord entre les États-Unis et les talibans, mais a été resté lettre morte. Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
La pandémie de coronavirus progresse inexorablement, ce qui a obligé les fédérations sportives à arrêter toutes leurs compétitions. Le cas de la Confédération africaine de handball.
Oui, une suspension des activités à quelques jours de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, un tournoi qui aura lieu en Algérie. La CAB a simplement décidé de ne pas prendre le risque, comme l'explique ici son président, le docteur Aremou Manzourou.
Les informations que nous avons reçues de l'Algérie étaient assez fortes et inquiétantes, au point où nous avons été obligés au niveau de l'exécutif de prendre la décision de reporter cet événement en attendant de voir plus clair. Et je crois que l'évolution constatée aujourd'hui interpelle plus d'un, puisque l'épidémie devient très sévère. Nous avons donc mis en veilleuse toutes nos compétitions statutaires, espérant, n'est-ce pas, que d'ici à là, de bonnes nouvelles indiquant la maîtrise de la situation puissent tomber.
À l'instant, Aremou Manzourou, le président de la Confédération africaine de handball, il a également décidé de suspendre sa visite de travail et d'inspection des infrastructures sportives au Cameroun. Ceci dans le cadre de la 24e CAN Senior Dame de handball. Seulement, elle n'aura plus lieu pour des raisons de contrainte de calendrier. Contrairement donc à l'information selon laquelle la visite aurait été ajournée à cause du coronavirus.
Élisée, cette pandémie commence à faire des victimes dans le monde du football.
Effectivement, Idrissa, et le cas recensé a pour nom Lorenzo Sanz, l'ancien président du Real Madrid, est mort. Atteint du Covid-19, l'homme qui a dirigé le club Mourenghe de 1995 à 2000 est décédé samedi soir à l'âge de 76 ans.
Parlons à présent de la Ligue africaine des champions. Les demi-finales et la finale pourraient être jouées au Cameroun.
Et selon la presse égyptienne, le comité d'urgence de la Confédération africaine de football opterait pour une demi-finale en un seul match et aimerait que ça soit joué à Douala au stade de Japoma qui va accueillir la finale de cette compétition. Rappelons que les demi-finales opposeront le Zamalek au Raja et le Wydad à Al Ahly, une confrontation entre clubs égyptiens et marocains.
En Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football, sous tutelle du ministère des Sports, connaîtra son nouveau président.
Oui, et trois candidats ont officiellement déclaré leur candidature. Sori Diabaté, l'actuel vice-président de cette fédération, Eugène Diomandé, président du CEO Sport de San Pedro, et Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants. À noter que le président sortant, Sidi Diallo, qui était à la tête de la FIFA depuis 2011, a décidé de ne pas se présenter. Pour rappel, la date de l'élection est prévue pour le 16 mai prochain lors de l'Assemblée générale ordinaire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour et merci pour le journal Idrissa. Il est donc l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Madame, messieurs, bonjour. Au micro, Eric Madilakiza. Après plusieurs reports, le président guinéen Alpha Condé enfin réussi à organiser ce dimanche des élections législatives couplées au référendum constitutionnel. Le double scrutin a connu des violences qui ont entraîné des morts. Le matériel électoral a été détruit dans certains quartiers de la capitale et dans certaines villes. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Dans la cour du complexe scolaire Sansi Kabadjakité à Gbessia, Ibrahima attend son tour de voter.
Ma motivation, c'est essayer de rendre d'abord mon devoir à la patrie guinéenne, parce que vous voyez, c'est un droit de voter. Donc je voudrais accepter la nouvelle constitution, parce que je vois il y a des choses qui peuvent apporter un changement au niveau de notre système d'évolution.
À Madina, un autre quartier périphérique de la capitale, Marie-Rose, présidente du bureau de vote numéro 2, explique comment elle gère le cas des personnes dont les noms ont été retirés du fichier électoral conformément aux recommandations de la mission de la CEDEAO.
C'est des gens qui devraient voter. Ils étaient tous sur la liste électorale. Mais après le passage de la mission de la CEDEAO, ils ont trouvé mieux d'éliminer certains parmi ceux qui étaient sur la liste électorale. Déjà, quand tu viens, tu regardes, tu commences par regarder les fiches qui sont affichées au dehors. Si tu trouves ton nom là-bas, ce n'est plus la peine d'insister pour voter. On les a expliqués. Cette fois-ci, ils ne peuvent pas voter.
Le double scrutin s'est déroulé sans la participation des principaux partis d'opposition. C'est le cas de l'UFDG, parti de Sélou d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition. Ses militants, à l'image d'Amadou Diallo, ne sont pas allés voter.
Je ne peux pas voter dans ces conditions pareilles. Toi, tu peux voter dans ces conditions pareilles, même pas un de tes opposants qui sont dedans. Parce qu'il n'y a pas Sidia, il n'y a pas Sélou. On ne peut pas faire des choses comme ça sans les bonnes personnalités qui peuvent gouverner le pays.
5 millions d'électeurs étaient convoqués aux urnes ce dimanche devant plus de 16 000 bureaux de vote. Deux scrutins qui se sont déroulés dans un contexte de pandémie due au Covid-19. La Guinée n'a enregistré que deux cas positifs, mais les mesures de prévention sont recommandées. Dans ce bureau de vote, tous les agents portent des masques. Dumessi Moussa, président d'un bureau de vote à Kaloum.
Depuis ce matin, comme vous le constatez dehors, il y a un dispositif. Nous avons un seau rempli d'eau avec le chlore. Voilà, on invite tous les électeurs, avant de venir au bureau de vote, ils doivent passer d'abord par ce kit, se laver les mains avant de venir dans le bureau de vote.
Le double scrutin a été perturbé par endroits par des violences qui ont entraîné des cas de mort. Du matériel électoral a été détruit à Conakry et dans certaines villes du pays. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Mali, les élections législatives du 29 mars vont se tenir, qu'il y ait ou pas de cas de coronavirus dans le pays. Déclaration du Premier ministre Boubou Cissé au cours d'une conférence de presse samedi sur le Covid-19. Le Mali n'a pas encore enregistré de cas confirmés de coronavirus, mais les mesures prises par le gouvernement et la situation dans les pays voisins font que certains souhaitent le report des législatives. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Le coronavirus est à la porte du Mali, car les 7 pays frontaliers ont tous enregistré au moins un cas confirmé du Covid-19. Les autorités maliennes ne veulent pas reporter les élections législatives dont le premier tour est prévu pour le 29 mars prochain. En tout cas, pour le Premier ministre Boubou Cissé, il n'est pas question de reculer.
À ce jour, nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives dans notre pays. Ces élections, nous l'espérons, vont se tenir, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de cas de maladie à coronavirus dans notre pays. Nous souhaitons qu'il n'y en ait pas. S'il y en a, nous souhaitons que ce soit rapidement maîtrisé.
Dans la capitale malienne, les candidats aux législatives battent campagne, mais difficile pour eux de ne pas avoir à l'esprit la menace du nouveau coronavirus.
On ne peut pas s'imposer à ça, on doit accepter la décision du Premier ministre et puis sensibiliser nos militants aussi. Bon, je lance un appel à tous mes militants d'être un peu restreints, les protéger à ne pas avoir cette maladie à cause de notre candidature.
Le gouvernement actuel doit prendre des mesures idoines pour protéger les populations civiles et militaires contre cette maladie surtout. Tout le monde doit conjuguer les efforts afin de pouvoir vraiment contrer cette maladie-là.
En commune du district de Bamako, les candidats de la plateforme défendant le Mali trouvent que l'État doit prendre des dispositions exceptionnelles le jour du vote. Issa Traoré, dit Baïssa, candidat.
En fait, je partage l'inquiétude des uns et des autres par rapport aux élections, tout le monde doit être inquiet. Donc moi je pense que le gouvernement doit prendre des mesures appropriées justement pour éviter non seulement que la maladie n'entre pas dans le pays, mais pour éviter une éventuelle contamination des instituts, des électeurs, surtout au niveau des centres de vote. Donc qu'il y ait des mesures vraiment préventives, donc du début jusqu'à la fin du processus des élections.
L'environnement social actuel avec le coronavirus ne facilite pas la bonne tenue des législatives, selon Boulan Baro du SNIL Faso Iriwaton.
L'activité électorale même oblige à ce que les gens se convergent vers un lieu. Alors que pour le moment, la seule solution qu'on a pu trouver pour le coronavirus, c'est la prévention. Et que les gens soient confinés, les gens soient stables, que les gens ne font pas de mouvement. C'est paradoxal. Ce que les autorités publiques disent, c'est pas ce qui traduit dans les actes.
Boulan Baro pousse ses explications en donnant des détails techniques sur le déroulement du vote.
C'est pas tenable sans risque. Le jour du vote, techniquement, dans un bureau de vote, qui connaît le fonctionnement d'un bureau de vote, du président du bureau, des assesseurs, des délégués, ça entraîne forcément à ce que les gens utilisent les mêmes objets, les mêmes endroits, et pendant toute une journée. Et cette chaîne qui viendra pour signer la liste d'hébergement, qui va prendre sa carte et prendre le bulletin de vote, part dans l'isoloir et revient pour mettre dans l'urne, c'est toute une chaîne. Les agents des bureaux de vote sont exposés. Vraiment, nous sommes inquiets. Et voilà pourquoi nous demandons à ce qu'on sursoit à cette opération de vote.
C'est vrai que pour le moment, le Mali n'a enregistré aucun cas confirmé de coronavirus, mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour demander le report de ces élections, dont le premier tour est prévu pour le dimanche 29 mars prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le Congo-Brazzaville vient de répertorier son troisième cas de contamination au coronavirus, ce qui a poussé le gouvernement à prendre une série de mesures, dont la fermeture des écoles et des lieux de culte, les bars et certains restaurants. En revanche, les transports en commun et les marchés continuent à opérer. De la capitale du Congo-Brazza, le reportage de notre correspondant Nguela Ngusu.
Hier a été un dimanche calme, sans son de cloche, chant de chorale, cri d'adoration ou bruit des tam-tam. À la suite du coronavirus, le gouvernement avait décidé de fermer tous les lieux de culte. À la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, les fidèles catholiques, en préparation de la fête de Pâques, réagissent.
Quelque part, nous sommes frustrés parce que en pleine période de Pâques, nous étions censés adorer Dieu et prier. Logiquement, c'est ça.
Complètement fermé, ça dérange tout le monde. De temps en temps, on constate que les gens continuent à venir malgré ces fermés. Je suis déjà un maître de cœur. J'aime bien écouter les chants, un peu tout, rester dans ce milieu.
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Devant la chapelle du ministère de la Voix du Salut à Mongali, aucun fidèle. Le pasteur a donné des consignes que les fidèles suivent avec fermeté. Claude Martial Mbon, fidèle de cette église.
Mon pasteur qui a compris le message gouvernemental le respecte et nous a demandé de faire la prière avec lui au téléphone. De temps en temps, quand j'ai un problème qui me dépasse, j'appelle mon pasteur, il prie pour moi.
À l'église Ulu du Saint-Esprit au Congo, chez les Ngunza, à Grand Ravin, même constat. Antoine Malela Mayinga, le pasteur général de cette église, explique.
Pas de culte, les paroisses sont fermées, telles que c'est bien dit par le gouvernement. Nous avons laissé la latitude aux responsables des paroisses de s'organiser. Deux, trois, quatre peuvent descendre chez un fidèle.
Le pasteur Edouard Mokala, lui, est le président de l'église évangélique du Congo.
Ce qui va nous manquer, c'est l'ambiance communautaire. C'est la façon dont nous célébrons habituellement avec notre liturgie et notre façon de faire. Mais en fait aussi, cela ne nous manque pas parce que nous avons des illustrations dans la Bible qui nous indiquent que nous pouvons, dans certaines circonstances, vivre la Pâque de cette manière.
Samedi, la présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, Claudine Munari, avait appelé toutes les forces vives à soutenir l'action du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus.
Tous les Congolais, mais parce que là on est là, on ne le voit pas le virus. Alors il va chuter chez qui? C'est peut-être chez vous. Moi je ne veux pas jeter l'anathème sur le gouvernement. Je suis sûr qu'ils font des choses, mais nous ne sommes pas au courant. Est-ce qu'il y a une cellule de crise où on peut aller s'adresser quand on a un problème? C'est ça que nous voulons savoir.
Très politique.
Sur ce point-là, au moins. Mais les autres problèmes demeurent.
le Congo, avec 4 cas confirmés, a procédé à la fermeture de toutes ses frontières. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président malgache Andry Rajoel a annoncé la suspension de toutes les liaisons aériennes à compter du vendredi 20 mars dernier, et ce pour 30 jours, entre son pays et l'Europe, devenu le principal foyer de la pandémie de coronavirus. Les navires de croisière ne peuvent plus accoster dans les ports du pays non plus. Comme pour les Seychelles et l'île Maurice, le tourisme est un pilier majeur de l'économie malgache, d'ores et déjà affectée par le Covid-19. Davantage avec Jacques Aristide.
Sur une petite île immaculée au large de la côte nord-ouest de Madagascar, pays célèbre pour ses orchidées et ses eaux turquoises remplies de tortues, les habitants se préparent au pire. La disparition des touristes, ces touristes qui maintiennent à flot l'économie de l'îlot Nosy Sakatia. Madagascar, la grande île de l'océan Indien, est l'un des pays les plus pauvres de la planète. La plupart des gens survivent avec moins de 2 dollars par jour. Nosy Sakatia dépend du flux constant d'Européens qui visitent l'île chaque année. Les touristes ont été appelés à prendre les derniers vols entre Madagascar et l'Europe pour rentrer chez eux. Marie Tateux possède un restaurant en bord de mer. Chez Marie, emploie 7 personnes et sert jusqu'à 80 touristes par jour. L'arrêt temporaire des vols régionaux et internationaux a contraint les entrepreneurs comme Marie Tateau à voir comment sauver leur business, et cela comprend la dure décision de licencier des employés. Si je les mets à la porte, ils n'auront rien à manger, explique Marie Tateau. J'essaie de me démener pour payer mes employés, mais il n'y a plus de clients, plus d'activités, dit-elle encore. Ces 3 enfants qui travaillent également dans le tourisme ont déjà perdu leur emploi. Bamani Tombo, âgée de 67 ans, est l'une des employées de Marie. Elle dit que si elle perd son emploi au restaurant, elle sera obligée de reprendre le travail de casseuse de cailloux. Casseuse de cailloux, ces femmes qui n'ont d'autre recours que de concasser des blocs de pierre pour nourrir leur famille. Emilia de Genève est une touriste française qui se trouvait encore sur Nosy Sakatia.
Puis on devait rester quand même jusqu'au 3 avril ici, continuer à découvrir l'île, à découvrir peut-être d'autres choses, les gens aussi. Et on n'a pas le temps de tout faire et puis c'est là, dans la précipitation, tout ça. Donc ouais, c'est pas très cool. Ouais.
Les quelques 300 000 touristes qui visitent Madagascar chaque année génèrent de l'emploi pour 641 000 malgaches sur une population de 26 millions d'habitants, d'après l'agence de promotion des investissements à Madagascar. Quant au système de santé de la Grande Île, il est déjà parti en lambeaux. Il a eu du mal à faire face à une épidémie de rougeole l'année dernière et c'est l'un des rares pays à signaler encore des cas de peste presque chaque année.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
point final à cette édition du Monde aujourd'hui. Le journal vous a été présenté par Idrissa Seydou Dia. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voaafrique.com. Restez branchés pour les derniers développements liés à la pandémie de coronavirus. C'était Eric Manirakiza à Washington. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique. À très bientôt.